Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 15 octobre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Levée des sanctions. Les consultations euro-iraniennes se terminent par un accord pour poursuivre les échanges à Bruxelles. L'attaque contre les manifestants pacifiques vise à entraîner le Liban vers une sédition intentionnelle selon le Hezbollah et le mouvement Hamal. La salle des opérations des alliés de la Syrie décide de répondre durement à l'agression israélienne sur Palmyre. Les services de sécurité de l'armée algérienne annoncent le démantèlement d'une cellule séparatiste bénéficiant de l'aide du régime israélien. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Au terme de leur consultation ce jeudi à Téhéran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Borelli et le directeur adjoint du service d'action de l'Union européenne Enrique Mora ont convenu que les pourparlers entre les deux parties sur des questions d'intérêt mutuel se poursuivront dans les prochains jours à Bruxelles. Et soulignant que l'Iran a toujours prouvé qu'il est un acteur responsable sur la scène internationale et s'attardant sur le fait que l'autre partie s'est toujours exonérée de sa responsabilité comme le montre son comportement contre-productif, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Tout cela montre que la partie d'en face à une distance significative par rapport à la responsabilité. » Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Iran remet en garde contre toute erreur de calcul et aventurisme israélien. Nous mettons en garde contre toute erreur de calcul et tout aventurisme militaire potentiel du régime israélien contre l'Iran, y compris de son programme nucléaire, a averti Majid Tartelavanchi, ambassadeur d'Iran et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. L'ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU a écrit également mercredi une lettre à l'actuel président du Conseil de sécurité réagissant aux récentes menaces proférées par le régime israélien. Au cours des derniers mois, le nombre et l'intensité des menaces et des gestes provocateurs et aventurisme du régime israélien n'ont cessé d'augmenter et ont atteint des niveaux alarmants, a-t-il prévenu dans sa lettre. Le dernier cas a été avancé par le chef d'état-major du régime des sionistes qui a explicitement menacé par ces termes. Les plans opérationnels contre le programme nucléaire iranien s'étendent. Les opérations visant à détruire les capacités de l'Iran se poursuivront sur tous les plans et à tout moment. de telles menaces systématiques, a souligné le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU. De telles menaces systématiques explicites du régime israélien contre l'un des membres fondateurs des Nations Unies constituent une violation flagrante du droit international, en particulier de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, a encore fait remarquer le diplomate iranien. Le fait que le régime israélien continue de détruire les capacités de l'Iran selon les propres termes du régime prouve sans aucun doute qu'il est derrière les attentats terroristes contre notre programme nucléaire pacifique dans le passé, a ponctué l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU dans sa lettre à l'adresse du Conseil de sécurité. La salle des opérations des alliés de la Syrie décide de répondre durement à l'agression israélienne sur Palmyre. La direction de la salle des opérations des alliés de la Syrie a déclaré avoir pris la décision de répondre durement à l'agression israélienne sur Palmyre. Les cibles visées par les avions israéliens sont des centres de service et de rassemblement de combattants, a indiqué la direction de la salle des opérations des alliés de la Syrie, qui a ajouté qu'un certain nombre de frères de combattants ont été tués et blessés à la suite de cette attaque, et de conclure « notre mission et notre présence légitime en Syrie » a toujours pour but d'aider l'État syrien. Le Hezbollah et le mouvement Amal précisent dans un communiqué que l'attaque contre les manifestants pacifiques vise à entraîner le Liban vers une sédition intentionnelle. Des manifestants qui se précipitaient, précisent-ils dans leur communiqué, vers le palais de la justice et pour participer à un sit-in pacifique contre la politisation de l'enquête sur l'explosion du port ont essuyé des tirs directs nourris lancés par des snipers positionnés sur les toits des bâtiments faisant des martyrs et des blessés graves vu que les tireurs ont ouvert le feu sur les têtes. Cette attaque menée par des groupes armés organisés vise à entraîner le Liban vers la sédition qu'assument les responsabilités, les instigateurs et les partis qui tirent profit du sang des victimes et des martyrs tombés dans l'explosion du port afin de réaliser des profits politiques malveillants. Le Hezbollah et le Hamal appellent l'armée libanaise à assumer sa responsabilité et à intervenir rapidement pour arrêter ces criminels. Les deux partis appellent leurs partisans au calme et à ne pas se laisser entraîner vers la sédition malveillante. Les brigades Al-Rots annoncent la mobilisation générale, soulignant qu'elles sont totalement préparées et disposées à agir. Suite à l'annonce du djihad islamique de la Palestine, selon laquelle il n'abandonnera pas ses fils dans les geôles israéliennes d'être martyrisés aux mains de l'ennemi, les brigades Al-Rots annoncent la mobilisation générale, soulignant qu'elles sont totalement préparées et disposées à agir. Dans un communiqué, les brigades Al-Rots ont affirmé avoir reçu la déclaration du secrétaire général, le commandant Ziad al-Nakhala, sur ce que subissent nos prisonniers et qui nous incombe d'assumer une grande responsabilité à cet égard. Le communiqué des brigades Al-Rots est intervenu après l'annonce par le secrétaire général du mouvement du djihad islamique, Ziad al-Nakhala, que le mouvement se tiendra aux côtés des prisonniers et les soutiendra avec tout ce qu'il a, même si cela exige de s'engager dans une guerre pour eux. Les services de sécurité algériens ont déclaré avoir démantelé une cellule qui envisageait de mener des attaques armées dans une cellule bénéficiant de l'aide du régime israélien. Selon les médias locaux, la cellule s'apprêtait à mener des attentats terroristes avec la complicité de l'entité sioniste, un des pays d'Afrique du Nord. La cellule était en contact permanent sur Internet avec ses parties étrangères, s'activant sous le couvert d'associations caritatives ou de la société civile basée dans l'entité des sionistes et un État d'Afrique du Nord, indique la DGSN, selon le média algérien TSR. La direction générale de la Sûreté nationale DGSN du pays a indiqué que les 17 personnes qui ont été arrêtées dans le nord-est de la de Kabylie sont accusées d'avoir planifié des actions armées visant à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Levée des sanctions, les consultations euro-iraniennes se terminent par un accord pour poursuivre les échanges à Bruxelles, de ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Au terme de leur consultation ce jeudi à Téhéran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Borelli et le directeur adjoint du service d'action de l'Union européenne, Enrique Mora, ont convenu que les pourparlers entre les deux parties sur des questions d'intérêt mutuel se poursuivront dans les prochains jours à Bruxelles. L'Espagnol Enrique Mora, adjoint et directeur politique du service européen pour l'action extérieure et qui s'est rendu à Téhéran pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales, dont notamment les récentes évolutions en Afghanistan et au Yémen, ainsi que des négociations sur la levée des sanctions cruelles, a rencontré ce jeudi 14 octobre Ali Borelli, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, pour les affaires politiques. Soulignant que l'Iran a toujours prouvé qu'il est un acteur responsable sur la scène internationale et s'attardant sur le fait que l'autre partie s'est toujours exonérée de sa responsabilité, comme le montre son comportement contre-productif, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Tout cela montre que la partie d'en face a une distance significative » par rapport à la responsabilité. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a précisé la partie la plus responsable et la plus près de la table des négociations. Réitérant sur le fait qu'il faut passer du verbiage aux actes, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué qu'il est important que l'Iran obtienne des résultats tangibles. L'Iran est toujours prêt pour des négociations sérieuses qui aboutissent à un accord pratique, pas à un accord sur papier, a-t-il insisté. Soulignant qu'il existe de sérieux doutes sur la volonté réelle des États-Unis de remplir leurs obligations, Ali Borelli a critiqué l'inaction des parties européennes à remplir leurs obligations liées au plan global d'action commun sur le nucléaire de 2015. Pour sa part, Enrique Mora, brossant un tableau sur ses responsabilités en tant que coordinateur de l'Union européenne, s'est dit prêt au nom du service européen pour l'action extérieure à coopérer avec l'Iran et d'autres parties afin de donner suite aux négociations pour parvenir à un résultat acceptable pour toutes les parties. En fin de compte, il a été décidé que les consultations entre les deux parties sur des questions d'intérêt mutuel se poursuivront dans les prochains jours à Bruxelles.
We'll be right back.
à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va en fait aborder avec deux spécialistes des questions internationales ces importants exercices militaires que l'Iran est en train d'organiser, des exercices de la DCA. En fait, ces exercices sont en train de dérouler et ces exercices importants interviennent dans un contexte régional et délicat et sensible. Lors de ces exercices militaires, les forces aériennes de l'Iran ont en fait des exercices destinés à contrer les offensives aériennes, électroniques et cybernétiques de l'ennemi fictif. Des systèmes de guerre électroniques ont été en fait employés lors de ces exercices militaires importants, et également des radars dotés de radars de perturbation, si vous voulez, de guerre électronique, ont été employés lors de ces exercices militaires. Et aujourd'hui même, en fait, des systèmes de défense anti-aériennes destinées à contrer des systèmes et des missiles balistiques de l'ennemi fictif ont été en fait employés lors de cet exercice militaire important. Et comme je viens de vous le dire, on va vous en parler avec deux spécialistes des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission le débat depuis Damas, capitale syrienne, un analyste politique et spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour aux téléspectateurs et un bonjour à votre invité, bien sûr.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Il s'agit de Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe et à nos téléspectateurs et surtout à Maître Devollet, que je retrouve comme toujours avec grand plaisir.
Luc Michel, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Comme première question, quelle est l'importance et la portée de ces importants exercices militaires de la DCA que l'Iran est actuellement en train d'organiser, s'il vous plaît?
Ces exercices, ils prennent place avec en arrière-fond trois grands dossiers actuels de la géopolitique. Tout d'abord, un dossier qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est la tentative d'expansion de l'OTAN dans le Caucase via l'Azerbaïdjan. Le second dossier, évidemment, c'est la confrontation stratégique entre les systèmes antimissiles russes et iraniens et les missiles de l'OTAN. Et le troisième dossier, c'est la volonté d'agression d'Israël contre votre pays, l'Iran. Depuis la chute de l'Union soviétique, l'OTAN essaye de s'étendre à travers l'Europe centrale et le Caucase, à travers des ex-républiques soviétiques qui sont la Moldavie, qui sont la Géorgie, qui sont le Bélarus et qui sont l'Azerbaïdjan. L'OTAN a mené une alliance stratégique agressive qu'on appelait il y a une dizaine d'années le GUAM, qui unifiait la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie et l'Azerbaïdjan, qui visait à refouler la Russie. Et à travers une offensive politico-militaire de l'Union européenne qui sert là-dedans de bras militaires de l'OTAN, c'est le partenariat stratégique de l'Union européenne vers les ex-républiques soviétiques. Cette offensive militaire, elle a échoué et elle est maintenant remplacée par une politique vis-à-vis de l'Azerbaïdjan qui est menée par la Turquie et l'Union européenne. Il y a un deuxième dossier, évidemment, qui est celui de l'agression de l'OTAN qui vise à réduire à néant l'avantage stratégique avec les missiles de sanctuarisation des territoires russes et iraniens, avec les S-500, les Pantsir, etc. Enfin, il y a une troisième offensive, c'est la politique agressive d'Israël. Elle s'est développée encore hier à travers un colloque qui s'est tenu organisée par le Jérusalem Post en Israël et repris par le Times en Israël. Dans ce colloque, un ancien chef du renseignement militaire, qui est le Cohen, qui est un ancien chef du renseignement militaire du Mossad et qui a été soutenu par des personnalités israéliennes, ils ont dit qu'Israël, comme dans les années 90 et dans les années 80, lorsque Israël est allé bombarder au mépris des lois internationales les installations irakiennes et syriennes à Bagdad et à Damas, aujourd'hui ces gens disent que le Mossad doit préparer de façon indépendante et de Tsahal une nouvelle opération militaire consistant à aller, comme ils l'avaient fait contre Bagdad et contre Damas, ils doivent aller aujourd'hui se préparer à aller bombarder l'Iran et les capacités militaires et nucléaires de l'Iran. Tout cela prend place dans un contexte militaire d'agression de l'OTAN et de leurs alliés russes, azerbaïdjanais et israéliens. Une fois de plus, on constate que la Turquie, elle est le fidèle domestique de l'OTAN. C'est la présence de la Turquie aux côtés de l'Azerbaïdjan et face à l'Arménie. C'est la présence de la Turquie en Syrie qui rend tout cela possible et qui représente le danger de l'OTAN. C'est évidemment inadmissible pour l'Iran et c'est inadmissible pour la Russie. Je connais bien, ce sera mon dernier mot, ce contexte, puisque pendant une dizaine d'années, de 2005 à 2015, j'ai mené un nombre important de missions avec mon ONG et autres, et nous aidions la Russie précisément et les républiques pro-russes autoproclamées en Transnistrie, en Abkhazie, en Ossétie du Sud et en Arménie avec le Nagorno-Karabakh. Nous aidions évidemment à contenir la politique agressive justement de l'OTAN dans ces régions. C'est le même combat qui reprend aujourd'hui. Nous avions été tranquilles pendant une période de 5 années, mais aujourd'hui, c'est une politique agressive de l'OTAN qui est inacceptable pour la Russie et aujourd'hui pour l'Iran.
Et Maître Develet, venez d'entendre les explications de Luc Michel. Si j'ai bien suivi Luc Michel, il estime que voilà, ces exercices militaires que l'Iran est en train d'organiser actuellement est un message tout d'abord à l'OTAN qui est en train de s'étendre, si vous voulez, au Caucase, si vous voulez, d'élargir sa présence militaire dans la région du Caucase, et également un message envoyé au régime israélien qui cherche à se frayer à une place, une présence même militaire en République d'Azerbaïdjan, pays voisin de l'Iran. Est-ce de votre avis également, Maître Develet?
Oui, tout à fait. Je suis toujours émerveillé par la maîtrise de Luc Michel sur ces dossiers. J'ajouterais que je pense qu'en plus de ça, il faut rajouter le filtre d'analyse qui porte sur un système d'exploitation atlantiste occidentale de manière générale qui arrive à un terme. Les contradictions internes sont en train de s'accumuler. Les populations autochtones sont en train de petit à petit se mobiliser contre les mesures qui ont été mises en œuvre. Les gens commencent à réaliser plus ou moins qu'il s'agit davantage d'une question politique plutôt qu'une question sanitaire. Et dans ce contexte-là, les états-majors, effectivement, des membres de l'OTAN, bien sûr, mais aussi de leurs relais régionaux, sont confrontés à un système de sanctuarisation, c'est vraiment le mot qui s'applique pour ce qui est du Levant en tout cas, et ils sont en train de réaliser qu'en fait, ils n'ont pas le choix, que c'est peut-être la fuite en avant qui représenterait dans leur façon de voir les choses l'option à suivre. Je rappellerai à nos téléspectateurs qu'il y a 3-4 jours de cela, la région hautement sensible de Abu Kamal a été pris pour cible par l'aviation israélienne, que les Israéliens n'ont pas trop communiqué sur le sujet, mais il semblerait que quelque chose sur un plan technologique ait eu lieu qui mette complètement à plat la supériorité aérienne israélienne, à savoir que pas moins de 4 de leurs jets auraient été littéralement, enfin, comme on dit en anglais, locked in, hein, donc prêts à être abattus dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose qui change complètement la donne dans la région, puisqu'on avait toujours vu jusqu'à présent la thématique selon laquelle l'OTAN pouvait s'appuyer sur la supériorité israélienne pour asseoir sa domination sur la région. Ce n'est plus le cas. L'Iran, maintenant, est en train d'accéder au premier rang des puissances balistiques avec ses Bavar 373, ses Kordat 3, et effectivement, avec la synergie créée avec la balistique russe, c'est tout le ciel de la région qui est maintenant complètement verrouillé et imperméable à toute tentative. J'ajouterais à cela que récemment, il a été annoncé, je crois que c'est quelque chose qui a lieu en ce moment, l'OTAN est en train de préparer des grands exercices sous l'appellation drapeau bleu. Donc l'Iran, dans ce contexte-là, se devait d'envoyer un message fort que elle est prête à toute éventualité, qu'elle est parfaitement en mesure d'assurer non seulement sa sécurité propre, mais celle de ses alliés. Et que dans ce contexte-là, il est important d'envoyer un message à l'OTAN et à toutes ses instrumentalités que tout aventurisme militaire dans la région, que ce soit au Levant ou que ce soit en Azerbaïdjan, sera réduit à néant.
Luc Michel, excusez-moi, en fait, le point le plus important qui a été évoqué tout à l'heure par Maître de Volée, c'était le fait que l'Iran est aujourd'hui au premier rang des puissances balistiques dans le monde. Je viens de le dire tout à l'heure, aujourd'hui même, en fait, des systèmes de défense anti-aérienne ont été employés lors de cet exercice militaire, des systèmes de défense anti-aérienne qui sont destinés à contrer des missiles balistiques et des missiles de croisière de l'ennemi fictif. Et avant cet exercice de la DSA, Luc Michel, l'Iran a organisé tout récemment d'autres importants exercices militaires. Pensez-vous que l'Iran a des moyens défensifs et militaires pour, si vous voulez, défendre sa politique tant au niveau régional qu'international, Luc Michel?
L'Iran n'a pas seulement des moyens défensifs, il a des moyens offensifs. Vous savez que l'Iran a choisi de faire relever sa défense d'une dissuasion. Cette dissuasion ne repose pas sur l'arme atomique jugée amorale par vos dirigeants, mais elle relève sur un secteur balistique important. Il y a des missiles qui sont offensifs et qui ont prouvé qu'ils enfonçaient les défenses antimissiles israéliennes, par exemple, dans la dernière confrontation à Gaza, et ils reposent sur des missiles défensifs qui sont notamment du même type que les missiles russes qui sont présents en Iran, les S-500 et les Pantsir, et il y a des missiles de fabrication iranienne. C'est une confrontation pour le rétablissement de la parité stratégique qui avait été mise à mal après l'effondrement de l'Union soviétique, en Syrie particulièrement. Mais il faut rappeler le contexte dans lequel s'est effectuée l'expansion de l'OTAN en Asie centrale. On se rappellera qu'au XIXe siècle, justement, la confrontation géopolitique, ce qu'on a appelé le premier grand jeu, se déroulait entre l'impérialisme anglo-saxon, la Grande-Bretagne et déjà la Russie. Après l'échec de l'OTAN en Asie centrale, qui n'a pas réussi à ramener dans l'OTAN des républiques ex-soviétiques, l'Ukraine, la Moldavie et en Asie centrale, l'Azerbaïdjan, eh bien la confrontation, elle a repris aujourd'hui autour de l'Azerbaïdjan, entre la Russie, entre l'Iran et entre l'OTAN et en particulier la Turquie. C'est maintenant évidemment une confrontation qui est vitale entre le bloc de l'Est et le bloc américano-occidental. Au sein de ce bloc, les Américains sont en train de remplacer la France par la Turquie. La France a joué un rôle essentiel du côté de l'Asie centrale dans les années 2005 et 2015. Aujourd'hui, ce rôle est repris par la Turquie. Et la Turquie et l'OTAN n'osent pas se confronter directement à la Russie. Elles passent donc par l'allié de la Russie, qui sont les alliés de la Russie, qui sont l'Arménie et qui sont la Turquie. C'est une confrontation essentielle. Et au sein de celle-ci, l'Iran est en train de donner un avertissement. Il n'est pas question de laisser la politique d'agression se développer en passant par l'Azerbaïdjan et par l'Arménie et par la Turquie. C'est cela que les manœuvres iraniennes sont en train de démontrer à l'OTAN, mais aussi à l'allié de l'OTAN qui est Israël.
Et Arnaud de Volé, est-ce que vous travaillez également le message de cet exercice militaire, selon Luc Michel, est le suivant? Il n'en est pas question pour l'Iran de se laisser passer cette politique d'agression.
Oui, tout à fait. Et l'Iran a de toute façon toujours bien intériorisé le fait que, comme le disait un ancien géostratégiste et militaire, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et dans ce contexte-là, de toute façon, l'Iran a bien vu que toutes les politiques d'apaisement et de compromis, entre guillemets, que certains pays ont pu engagé avec les Occidentaux, leur a toujours coûté, in fine, très cher. Donc l'Iran, en civilisation pluriséculaire, a parfaitement intégré tout cela, sait très bien, au plus profond de même, à qui elle a affaire. Et dans ce contexte-là, elle capitalise, elle mise tout sur une capacité qui lui permette de sanctuariser sa souveraineté, mais aussi de projeter ses intérêts dans la région de façon à créer des synergies avec des alliés et, comme le disait Luc Michel, recréer cette parité qui avait disparu lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Et dans le contexte d'un bloc eurasiatique qui a vocation à faire dépasser le centre de gravité du commerce international et des échanges mondiaux de manière générale, il est essentiel que l'aspect sécuritaire et la synergie entre les principaux architectes, si je puis dire, de ce bloc eurasiatique, à savoir la Chine, l'Iran ou la Russie, coordonnent dès maintenant leur politique de défense et leur politique de dissuasion, bien sûr.
Luc Michel venait en fait d'y faire allusion tout à l'heure que voilà, l'Iran est arrivé à sanctuariser, si vous voulez, son territoire par ses moyens défensifs et militaires. Vous avez fait allusion également à cette présence de l'OTAN dans la région du Caucase, également à cette présence israélienne en République d'Azerbaïdjan. Pensez-vous que de part en fait de ces exercices militaires, l'Iran est également montrer qu'il est capable de, si vous voulez, de viser les têtes de pont de l'ennemi à l'extérieur de son territoire?
Il faut dire un mot sur la guerre hybride, justement. La guerre hybride, elle n'a pas été inventée par la Russie en 2013 en Ukraine, mais par l'Iran en 2006. Qu'est-ce que c'est la guerre hybride? Les pays du bloc américain occidental, ils mènent la guerre classique, c'est-à-dire la guerre qui est dans la ligne du général prussien Clausewitz, qui a théorisé la guerre moderne à la fin de la guerre napoléonienne. C'est une guerre qui est menée par les États et c'est une guerre qui est menée par les armées étatiques. Au centre de cette guerre, il y a avant la guerre elle-même, il y a la course aux armements. C'est la course aux armements qui a épuisé l'Union soviétique et qui a permis à l'Amérique de remporter la guerre froide précédente. La Russie et l'Iran, ce sont des puissances pauvres. Elles n'ont pas les budgets militaires des Occidentaux. Et dès lors, elles ont inventé la guerre hybride, justement, pour dépasser la guerre de Clausewitz. On dit de la guerre hybride que c'est une guerre post-Clausewitz, multidimensionnelle. Elle est menée par des acteurs extra-étatiques dans le domaine des médias et de la géopolitique par la Russie et par les firmes de sécurité militaire russes et par les Iraniens avec les partis milices comme le Hezbollah, Ansarallah, les Hachal Shalabi ou la Défense populaire syrienne. Dans cette guerre hybride, la Russie et l'Iran, elles n'ont choisi de sortir de la course aux armements et de maintenir la parité stratégique au dépens pour l'Iran du secteur balistique. C'est à cela que l'Iran est en train de démontrer. Elle l'a démontré au cours de la précédente guerre Israël-Palestine à Gaza il y a quelques semaines. La Russie le démontre en Ukraine, en Afrique, etc. Quelle est la caractéristique dernière de cette guerre hybride ? C'est que ni l'Iran ni la Russie ne s'épuiseront dans une course aux armements, dans des régimes classiques comme les pays de l'OTAN, mais dans des secteurs de pointe où elles ont la supériorité sur l'OTAN. C'est cela qu'il faut comprendre. Et deuxièmement, évidemment, il y a cette guerre hybride qui se développe dans des domaines où l'OTAN n'est pas présente. Par exemple, le Hezbollah vient d'écraser les Américains et de briser l'embargo occidental sur le pétrole et le gasoil au Liban. C'est cela qu'il faut constater, bien entendu. C'est l'échec de l'OTAN. C'est pour cela que, via la Turquie, l'OTAN essaye de reprendre cette parité stratégique dans des affrontements militaires classiques. Ce n'est pas le cas de l'Iran ou de la Russie. Entre parenthèses, de l'Iran au Proche-Orient et de la Russie en Afrique, par exemple en Centrafrique ou au Mali ou en Libye ou au Soudan actuellement.
Luc Michel, merci infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Vaudet, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a révélé que des pourparlers sont en cours entre son pays et l'Iran pour l'ouverture d'un couloir reliant le golfe Persique à la mer Noire. Dans son discours prononcé mercredi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue indien, il a déclaré « Les pourparlers sur l'ouverture d'un couloir de transport entre le golfe Persique et la mer Noire se poursuivent très rapidement. » Nous espérons signer un accord avec l'Iran à cet égard dès que possible, a indiqué le ministre arménien des Affaires étrangères. Avec Luc Michel, géopoliticien belge, nous avons analysé l'importance de cette déclaration du ministre arménien des Affaires étrangères, M. Ararat Mirzoyan, et le renforcement des liens entre l'Iran et l'Arménie.
C'est très important parce que derrière le conflit Arménie-Azerbaïdjan, il y a un problème géopolitique beaucoup plus vaste, qui est l'arrivée, les projets de l'OTAN depuis 25 ans dans le Caucase et les projets israéliens depuis plusieurs années en Azerbaïdjan. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il date de l'éclatement de l'Union soviétique, lorsqu'une province à majorité arménienne de l'Azerbaïdjan, qui était jusque-là une république soviétique autonome, s'est détaché et a proclamé son indépendance. Il y a depuis eu un conflit latent, ce qu'on appelle en géopolitique des conflits gelés. Il y en a toute une série à la périphérie de l'ex-Union soviétique. Et jusque ces dernières années et même ces derniers mois, le conflit gelé n'avait pas bougé. Mais tout a changé avec les nouveaux projets de l'OTAN soutenus par la Turquie. En fait, derrière le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan se dissimule non pas une guerre par procuration, comme on le croit, entre l'OTAN et la Russie. En effet, la Russie est très réservée vis-à-vis de l'Arménie. Il faut savoir que le régime arménien qui est arrivé au pouvoir il y a quelques années, il est issu d'une révolution de couleur anti-russe et anti-Poutine. Et donc, la Russie, elle soutient, parce qu'elle n'a pas le choix, du bout des doigts véritablement l'Arménie, mais en même temps, elle n'a pas totalement rompu avec l'Azerbaïdjan. La tactique de Poutine, c'est la même chose que ce qu'elle fait avec la Turquie en Syrie, c'est fracturer le camp occidental. En fait, la guerre par procuration entre l'Arménie d'un côté et l'Azerbaïdjan, elle oppose les deux blocs. Le bloc de l'Est avec essentiellement l'Iran et le bloc américain occidental avec la Russie et avec la Turquie, avec les Américains, avec l'OTAN, mais aussi avec l'allié de l'OTAN qui est Israël. Depuis plusieurs années, les Turcs ont investi en Azerbaïdjan. Vous savez que les Turcs sont partisans d'une théorie géopolitique qu'on appelle le pantouranisme et qui était relancée par le régime d'Erdogan depuis 3 années en parallèle avec le néo-ottomanisme. Qu'est-ce que c'est le pantouranisme? C'est l'union depuis Ankara de tous les peuples turcophones d'Asie centrale derrière Ankara. C'est une théorie qui a été développée à la fin de l'effondrement de l'Empire ottoman. En 1918, elle a été défendue par un ancien premier ministre, jeune turc ottoman, Enver Pacha. Et pendant les années 20, ils ont fait la guerre à la Russie bolchevique. Tout simplement parce qu'il y a une lutte d'influence. Le projet pantouranien, il s'oppose à la restructuration de ce qui était jadis l'Union soviétique et de ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-eurasisme. Ce sont des adversaires historiques. Depuis lors, la Turquie elle a toujours maintenu des ambitions et elle a profité du conflit Arménie, en n'oubliant pas que l'Arménie est un adversaire historique également de la Turquie, puisque les Arméniens ont été massacrés pendant la Première Guerre mondiale. C'est un des premiers génocides du XXe siècle. Et donc, les Turcs sont à la fois opposés à l'Arménie et ont de la sympathie pour l'Azerbaïdjan, puisqu'ils considèrent que c'est un État musulman turcophone qui fait partie de leur sphère d'influence. L'OTAN est venu compliquer les choses. À la suite de l'invasion de l'Afghanistan, l'OTAN a développé une politique de présence en Asie centrale centrée sur l'Azerbaïdjan. Cette politique a été appuyée par l'Union européenne et son partenariat oriental qui était centré en Asie centrale sur le soutien à l'Azerbaïdjan. C'est une politique anti-russe.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Iran, cap stratégique eurasiatique et traitement médiatique. L'alliance avec la Chine, l'annonce de la signature prochaine du partenariat stratégique avec la Russie, influence régionale la plus importante dans son histoire contemporaine et pleine intégration dans l'OCS, conforte une fois de plus l'idée que toutes les tentatives occidentales à faire isoler l'Iran représentent un échec absolument évident. Les grands bouleversements en cours sur l'arène internationale propre à l'ère multipolaire se déroulent alors que l'établissement occidental et États affiliés les regardent uniquement en qualité d'observateurs sans aucune capacité à pouvoir changer la donne. Chose d'ailleurs tout à fait logique compte tenu du fait que d'un point de vue ne serait-ce que de chiffres, la véritable communauté internationale se trouve bel et bien dans l'espace eurasiatique, sans oublier les partisans du concept multipolaire dans d'autres régions du monde. Le cas de la République islamique d'Iran est une fois de plus très révélateur de toute la contradiction politico-médiatique à l'Ouest, qui d'un côté se retrouve forcé à reconnaître les événements en cours, tout en maintenant une ligne de description qui ne correspond pas aux nouvelles règles internationales. L'Iran et la Russie vont signer un partenariat stratégique, annonce un média français, en indiquant dans le même article que Téhéran regarde vers l'Est et que la signature du dit accord est prévue dans les prochains mois après un accord similaire signé avec la Chine. Le média hexagonal en question, orienté très principalement sur le grand public africain qui représenterait d'ailleurs un peu plus de 80% de son auditoire, mentionne pourtant dans le même article qu'étant étouffé par les sanctions occidentales et alors que la reprise des négociations de Vienne sur le programme nucléaire patine, l'Iran tente de sortir de son isolement par l'Est. Ce passage mérite quelques commentaires. Tout d'abord, il serait juste de rappeler que l'Iran ne regarde pas vers l'Est, mais a bel et bien choisi, et ce depuis déjà un bon moment, l'orientation stratégique axée sur l'alliance avec la Chine et la Russie. De même que dans le cadre de l'intégration dans le grand espace eurasiatique, notamment au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. En parlant d'ailleurs d'isolation, ce sont au contraire les États-Unis, principaux initiateurs avec Israël de cette tentative vis-à-vis de Téhéran, qui s'étaient retrouvés largement isolés à l'ONU lorsqu'ils ont tenté de faire prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Iran. Ayant dû faire face au double veto sino-russe et même à l'abstention de ses alliés d'Europe occidentale. En ce qui concerne le dossier du nucléaire iranien, ici aussi, Téhéran s'est positionné en force, ayant imposé des conditions à la partie états-unienne pour un retour éventuel à l'accord en question. Par ailleurs, on arrive même à déceler une contradiction nette venant du média, donc RFI, avec leurs confrères de France 24, la chaîne de télévision promouvant les intérêts français orientés sur l'international, qui pratiquement au même moment publie un article qui parle d'un Iran incontournable dans les affaires de l'Irak voisin, notamment dans le cadre des élections législatives anticipées dans ce pays. Le même média parle même d'une mainmise iranienne sur son voisin. Ce ne serait pas un peu beaucoup pour un pays prétendument isolé ? Alliance avec deux des trois principales puissances mondiales que sont la Chine et la Russie, adhésion au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, regroupant la moitié de la population mondiale, omniprésence dans les affaires régionales, notamment en Irak, développement actif des relations avec d'autres régions du monde, parmi lesquelles l'Amérique latine et l'Afrique, pour ne citer que cela. Le souci de cette contradiction dans le traitement médiatique occidental, c'est qu'on soit arrivé à une étape plus qu'intéressante dans la géopolitique internationale et le traitement des médias occidentaux qui en ressort. D'un côté, les vieux démons de l'unipolarité s'accrochent jusqu'au bout dans les rédactions de l'Occident. Maintenant, la répétition des notions promues par les élites politiques concernées. D'un autre, les changements majeurs au niveau mondial des dernières années n'arrivent tout simplement plus à passer inaperçus. Restera à observer comment les médias occidentaux, surnommés le mainstream, continueront à traiter la réalité tout simplement et résolument multipolaire dans les affaires internationales.